Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public à un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, le directeur de la Fondapol, le politologue Dominique Régnier, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann et le directeur général de la Fondation Jean Jaurès Gilles Finkelstein. Au sommaire de ce dimanche 21 octobre, affaire Mélenchon, le politique est-il injusticiable comme les autres? Et les cadavres dans le placard du dirigeant saoudien Mohamed Ben Salman. Une perquisition de bon matin au domicile d'un responsable politique de premier plan filmé en direct live par l'intéressé lui-même et diffusé sur Facebook. Jean-Luc Mélenchon, enfilant son écharpe tricolore de parlementaire avec ces mots « Personne ne me touche, ma personne est sacrée, je n'ai peur de personne ». Paradoxe d'un élu se parant du symbole de la République et de ses lois au moment où il les contestait. Paradoxe d'un homme qui, lorsque François Fillon ou Marine Le Pen étaient eux-mêmes empêtrés dans des démêlés judiciaires, avait tenu un tout autre discours de rappel au sacro-saint principe de la justice pour tous. Paradoxe d'une époque où l'on pouvait donc dire tout et son contraire, afficher des principes pour les contester ensuite et même en faire un spectacle de la victimisation. Bien sûr, malgré tout, il y avait des questions légitimes qui se posaient dans cette séquence folle. Une simple enquête préliminaire dans une affaire d'assistants parlementaires et de comptes de campagne justifiait-elle un tel déploiement d'effectifs judiciaires et policiers quand le FN et le MoDem n'avaient eu droit à de telles perquisitions que lors de la phase dite de l'instruction ? Comment éviter le soupçon d'une justice dépendante et d'un parquet aux ordres du ministère de la Justice ? Ces images de la semaine en imposaient d'autres, plus anciennes. Celle d'un François Fillon pendant le Penelope Gate, dont la colère avait été beaucoup plus froide et la réaction tout en propos lapidaire et cinglant lorsqu'il avait accusé, là encore devant des caméras, un cabinet noir de l'Élysée d'être derrière ses démêlés judiciaires pour perturber sa campagne électorale. Alors on se souvenait de la phrase de Montesquieu, théoricien de la séparation des pouvoirs. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. La justice pour arrêter le politique. Sauf que cette semaine, c'était un politique qui avait voulu arrêter la justice.
C'est pas de la police que vous êtes en train de faire, c'est ce que je veux, monsieur. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à aller faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte.
On a le sentiment, Gilles Finkelstein, d'entendre la bande-annonce d'un film lorsque l'on écoute ces sons et on revoit ces images de la semaine. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a un problème avec la loi ou est-ce que c'est autre chose qui s'est joué cette semaine ?
Alors on peut, vous l'avez fait, pointer les incohérences, le double discours entre le moment où lui-même est sous le feu de l'enquête et lorsque d'autres le sont. On peut manier l'ironie, et c'est vrai quand on entend ces formules, là, ma personne est sacrée, la République c'est moi, on peut être tenté de le faire, mais je crois qu'il faut prendre cette histoire avec sérieux et qu'elle est à la fois, plus on y réfléchit en fait, elle est à la fois injustifiable et irresponsable. Elle est injustifiable parce que aucun des arguments qui sont avancés pour expliquer cet emportement ne peuvent emporter l'adhésion. Il n'a été traité ni mieux ni moins bien que les autres responsables politiques et que les autres formations politiques qui toutes, y compris lorsqu'elles étaient au pouvoir, ont vécu des perquisitions. D'une certaine manière, il a même été mieux traité que la plupart des justiciables, puisque dans cette phase d'enquête préliminaire, c'est le procureur lui-même qui est venu parce que c'était Jean-Luc Mélenchon exercer la perquisition.
Alors je vous arrête parce que Jean-Luc Mélenchon et ses proches disent justement que le fait de déclencher une perquisition, alors même qu'on en est seulement à l'étape de l'enquête préliminaire, n'est pas la façon dont on a traité précisément le Front National et le MoDem.
Mais l'argument est totalement réversible, puisque si à l'issue de cette enquête préliminaire, il n'y a aucun élément, et bien il n'y aura pas d'étape ultérieure et que donc il n'y aura pas ni de désignation de juge d'instruction, ni de mise en examen. Donc c'est injustifiable et c'est, je crois que c'est le plus important, que c'est irresponsable parce que Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, a réussi à intéresser à la politique. Et parfois, en élevant le débat, la jeunesse. une partie de la jeunesse et qu'il a un devoir d'exemplarité par rapport à cela. Et je crois que cet exemple est absolument calamiteux. Je crois que c'est irresponsable aussi par rapport au respect que les élus doivent aux institutions. Et donc, lorsqu'il utilise les mots d'une police politique, je crois que c'est vraiment très excessif. Et enfin, par rapport au climat qui existe dans notre pays et même au-delà, dans lequel le complotisme se développe de plus en plus, et donc toujours l'idée que, eh bien, c'est parce qu'on lui en veut, je crois que tout ça n'est pas très responsable. Donc c'est dommageable, sans doute d'abord pour lui. Mais ça, c'est son problème, mais je crois que c'est dommageable au-delà pour la République. Et au fond, la question qui est posée, et peut-être on pourra y revenir, est de savoir quelle est la conception de la démocratie que porte Jean-Luc Mélenchon. Et peut-être que là se trouve la divergence principale qu'il peut y avoir entre les sociodémocrates et Jean-Luc Mélenchon.
J'allais y venir parce que ce n'est pas le premier coup d'éclat éruptif de Jean-Luc Mélenchon et qu'on a souvent alors entendu ses anciens camarades du Parti Socialiste dire « Certes, il est éruptif ce Jean-Luc Mélenchon, mais il est foncièrement républicain, il a même une sorte de mystique républicaine et là, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Dominique Reynier ?
Moi, je reprends ce que vient de dire Gilles Finkelstein. Je trouve que c'est effectivement un événement très significatif et un comportement inacceptable qui s'inscrit dans une série de comportements de Jean-Luc Mélenchon, de ses lieutenants, de ses élus. Alors, pas de tous, bien sûr, hein, mais ça fait quand même beaucoup maintenant. L'habitude depuis maintenant quelques mois d'un charivari parlementaire souvent choquant, eu égard précisément à ce qu'est la fonction de parlementaire. Moi, je me souviens, comme chacun, hein, de cette mise en scène au moment où Manuel Valls est venu annoncer son départ. Je prends cet exemple parce que c'est le plus récent. L'occupation par certains de ces élus brutales, parfois violentes, des universités il n'y a pas très longtemps. Un rapport avec les personnes en général et les journalistes en particulier, on l'a vu encore récemment, qui est d'une très grande violence, plein de mépris. Ou encore l'attitude qu'il a avec ses propres élus lorsque la députée de l'Hérault essaie de le convaincre de ne pas se comporter ainsi, il lui répond d'une façon qui est inacceptable. Le rapport qu'ont certains membres de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon à la vie privée, avec des comportements qui sont absolument choquants et que vraiment on ne pardonnerait à personne, tout ça, ça fait beaucoup. Et son discours, outre les contradictions que vous avez déjà relevées et qui sont quand même flagrantes, son discours nous dit beaucoup inévitablement, de sa conception du rapport entre la justice et le pouvoir politique. Inévitablement. Sa surprise est une façon de nous dire, sans le vouloir, si j'étais le pouvoir, je n'admettrais pas que la justice ne m'obéisse pas. C'est une conception autoritaire du pouvoir, ce qui s'inscrit pour moi dans la conclusion d'une démarche populiste, inévitablement. Et je voudrais ajouter que c'est étrange parce qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon bénéficie d'une bienveillance et d'une clémence incroyable. Si nous avions eu, c'est même pas imaginable, tous ces éléments-là, de la part du Front National, du Rassemblement National, nous serions tous dans la rue pour sauver la République. Et là, parce que par une espèce d'a priori qui n'a plus aucune raison d'être, il est considéré comme républicain, au fond nous ne le faisons pas. Et c'est en ce sens que ça affaiblit beaucoup et la République, notre rapport à la République, parce que si demain le Front National ou le Rassemblement National a un comportement de même type, mais moins marqué, alors on sera obligé de se dire, finalement, on ne va pas réagir parce qu'on n'a pas tellement réagi, ou pas autant qu'on aurait dû le faire, lorsque c'est venu de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Là, il vient de faire beaucoup de mal à la République.
Il a un problème avec la République ou avec la démocratie, Sylvie Kaufmann, ou cela a à voir avec un caractère caractériel, en réalité, qu'on aurait vu à l'œuvre cette semaine?
Oui, je crois qu'il a d'abord un problème avec lui-même. La première réaction qu'on a, je dirais, de citoyens ou de citoyennes en voyant ces vidéos, c'est heureusement que cet homme n'est pas à la tête de l'État. Parce que ce côté sanguin impulsif est exactement le contraire de ce qu'on attend d'un homme d'État. Je crois que c'est Marcel Gaucher sur votre antenne qui a dit, qui a relevé que même
dans
Robespierre.
Dans la matinale de Guillaume Herner.
Ouais. Voilà, qui disait que même Robespierre, dans ses quelques années de carrière politique, a fait preuve d'une maîtrise de lui-même remarquable. Qu'il opposait au, à ce qu'il appelle le comportement postmoderne de Jean-Luc Mélenchon. Et
cette, même si son La République, c'est moi a fait rire beaucoup parce que ça renvoie à la monarchie. L'État, c'est moi, c'est Louis
XIV. Oui, mais on peut, bien sûr. Alors, et ceux qui ont ri de ces expressions se sont vus accusés de manquer de culture par Jean-Luc Mélenchon. Le procureur, c'est aussi La République. D'ailleurs, il s'appelle le procureur de La République. La police, c'est aussi La République. Voilà, donc là, il y a, je crois, une contradiction en plus totale entre ce personnage qu'il voulait mettre en avant, celui de l'élu au-dessus de ce que lui demande la police et de cette perquisition qui est en train de faire la police et la justice dans ses locaux et puis à son domicile. Et dites, vous ne pouvez pas me faire ça à moi qui suis la République. Et donc, avec tout, il lui-même n'avait pas revêtu l'écharpe tricolore, mais d'autres élus de la France insoumise autour de lui l'avaient. Et justement, si on est quand on est sain de l'écharpe tricolore, on ne va pas à la castagne, on ne fait pas la castagne avec l'écharpe tricolore. Donc voilà, il y avait cette contradiction entre ce comportement très humain, trop humain probablement, et puis cette volonté de se poser au-dessus. Ouais. Donc là, il y a un problème de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Au-delà de ça, il y a aussi ça pose plus loin dans la substance, si on en vient à la substance et au fond, le problème des comportements des élus vis-à-vis qui sont accusés de corruption. Et c'est une problématique qui est de plus en plus lourde, puisque ces affaires se multiplient, pas seulement en France, mais on vit bien. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a dit ils vont me foutre en cabane comme Lula. C'est un très bon exemple parce que Lula, lui, il a respecté les procédures. Il est en prison. Il ne s'est pas révolté contre la justice et Dieu sait que la justice au Brésil n'est pas forcément
une grande tendresse.
Oui. Voilà. Il a fait toutes les instances possibles. Il a fait tous les appels possibles et puis il a fini par aller en prison où il est et il respecte ses procédures. Donc la comparaison n'est pas bonne. Il y a d'autres pays. On voit bien en Roumanie qui a poussé la lutte contre la corruption très très loin. C'est devenu une bataille politique majeure. Ce sont des cas de figure qui sont différents de ce qui se passe en France. Mais on a eu l'affaire Fillon, on a eu l'affaire... Bon,
oui,
on
voit bien j'allais aussi. Venir. La vieille rengaine politique du gouvernement des juges, elle est très ancienne. D'ailleurs,
voilà.
La rédaction de France Culture s'était intéressée pour en recenser un certain nombre. Il y a eu, bien sûr, François Fillon, il y a eu Marine Le Pen, il y a eu Charles Pasqua en 1997 qui dénonçait une immixtion de l'autorité judiciaire, Michel Charras en 96 qui parlait de la dictature d'un corps sans contrôle et Henri Emmanuelli en 92 qui parlait d'une justice politique. Hubert Védrine, elle est légitime ou elle est illégitime? Ou ce soupçon d'une justice qui, officiellement indépendante, aurait un calendrier tenu en réalité au plus haut niveau de l'État?
Dans un monde, dans une société, une époque où tout le monde détruit tout, je ne vois pas pourquoi il serait absolument interdit de s'interroger sur la justice. Au nom de quoi? Ça dépend des conséquences qu'on en tire après. Mais
la
seule remarque un tout petit peu distanciée dans votre échange, c'est celui de Sylvie sur la justice au Brésil. Bon. Donc, moi, je suis embarrassé par ces sujets parce que, d'abord, je sais bien que c'est la loi de l'émission, elle est organisée comme ça, je l'ai acceptée, donc je ne le conteste pas, mais je trouve ça disproportionné. Quand on pense à l'état chaotique du monde, quand on pense au compte à rebours écologique, il y a pas mille autres choses, mille fois plus graves. Je trouve ça un peu disproportionné, même si je reconnais que ce n'est pas absurde de s'interroger sur le fonctionnement de la République et de la démocratie dans nos pays, etc. Bon. Très bien.
C'est pas complètement secondaire, non?
Non, c'est pas secondaire, c'est une question de proportion. Je trouve ça disproportionné. Je trouve pas ça secondaire, je trouve pas sans importance, je suis d'accord. C'est un sujet. Mais je trouve ça disproportionné. Bon, encore une fois, j'ai accepté la règle de l'émission. Après, bien sûr, la justice est la même pour tous. Mais on aimerait être sûr que c'est vrai, en fait. Donc j'aimerais aussi qu'une fois qu'on a dit toutes les choses terribles sur Mélenchon, moi j'aime pas hurler avec les loups en plus, donc ça s'ajoute aux autres commentaires.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ce serait intéressant de savoir ce que donne sur 20 ou 30 ans l'ensemble des procédures judiciaires déclenchées contre des personnalités politiques. Je serais intéressé de lire dans un article, c'est une remarque neutre, hein. Objectivement, j'en sais rien, je ne sais pas quelle est la réponse, mais quel est le pourcentage de non-lieux qui ont été apportés au bout de plusieurs années, après que des personnalités ou des groupes aient été anéantis en fait, par les procédures judiciaires et la dimension publique, qui est celle du lynchage public avant les conclusions, puisque c'est très bien qu'il n'y a plus de secret de l'instruction, qu'il n'y a plus de présomption d'innocence, etc., etc. Donc je ne dis pas que c'est le cas là, puisque ça s'applique à tout le monde. Je ne sais pas si le mot de corruption est adapté au fait qu'on utilise abusivement.
En tout cas, vous avez cité les travaux de la cellule d'investigation de Radio France cette semaine, qui semble établir en effet des questions de surfacturation pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon.
Ah oui, non, mais je ne parle pas du cas particulier, je dis sur 20 ou 30 ans. Sur 20 ou 30 ans, depuis qu'il y a... on ne peut pas dire que la justice est un corps totalement inattaquable, totalement homogène, composé de gens qui ont tous l'idée de l'intérêt supérieur du pays en tête, et pas, il y a quand même des syndicats, il y a des mouvements, il y a des courants, ils ne sont pas tous à la même ligne. Le calendrier de la justice dans l'affaire Fillon posait quand même question. Non, je ne pense pas que les réponses apportées étaient totalement convaincantes sur ce point. Donc, oui,
pour
très
vous,
bien.
Là aussi, le calendrier judiciaire pose question ?
Oui, je trouve que ce n'est pas interdit de poser la question. En tout cas, il ne faut pas s'indigner du fait que certains posent la question. Après, je ne suis pas pour les outrances, je ne suis pas pour l'hystérisation de toutes ces questions, bien sûr. Sur la justice que sur le reste.
Bien, vous pensez aussi alors qu'on en était à l'étape de l'enquête préliminaire ?
J'en sais rien sur le détail, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais qu'il y a des explications de la part des juges qui font leur travail, la police qui fait son travail, je sais bien. Mais je trouve qu'à côté de ce que vous avez dit, qui est sans doute fondé dans le cas particulier de Mélenchon et de sa réaction complètement exagérée, je pense que c'est pas absurde de s'interroger aussi sur le fonctionnement de la justice, puisque l'ensemble des corps, que ce soit les autorités politiques qui sont une sorte d'acharnement systématique contre elles, les médias n'en parlons pas, etc. Donc c'est pas absurde de s'interroger aussi sur la justice.
La question de l'indépendance du parquet qui va être relancée par la prochaine réforme de la justice, c'est un vrai sujet pour vous aujourd'hui en France ?
Ah mais moi je ne crois pas du tout aux interprétations délirantes, complotistes, qu'il y a des espèces de cellules qui mettent en marche ça. C'est plutôt la question de du vieil affrontement qu'il y avait sous l'Ancien Régime, des parlements contre contre la monarchie.
Mais pour qu'on comprenne bien, il y a un soupçon sur le calendrier judiciaire ?
Je ne pose pas la question au sens mélenchonien, pas du tout. Je ne dis pas que c'est un calendrier qui est téléguidé par des autorités qui gardent un pouvoir sur la justice et qui peuvent utiliser ça dans leur combat politique. Je ne crois pas à ça une seconde. Je me pose même la question inverse. Puisque c'est une sorte d'affrontement, on le voit bien aux États-Unis aussi. Il y a des pouvoirs judiciaires, il y a des pouvoirs politiques, etc. On ne peut pas être, disons, à l'acide sur l'ensemble des sujets, sauf là-dessus.
Mais il y a une différence entre s'interroger...
Mais je ne dis pas ça pour disculper ceux qui ne respectent pas la loi.
Si la loi est la même pour tous,
si c'est vrai, si c'est vraiment vrai, tant mieux.
Là, on n'est pas dans le débat, on est dans l'accusation.
Ah, mais je n'ai pas du tout défendu la méthode, ni les déclarations tonitruantes.
Alors, Dominique René.
En fait, en réalité, l'intervention d'Hubert Védrine n'est pas en contradiction avec ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire que nous avons...
Encore raté.
Nous avons de bonnes raisons d'interroger la justice, qui est un des trois pouvoirs, puisque vous citiez Montesquieu, et donc comme pouvoir, il mérite son contre-pouvoir et le jugement critique qui s'exerce sur lui, tout à fait, et il faut le faire. Et il y a sans doute aussi, puisque ce sont des femmes et des hommes qui font la justice, donc il y a toujours cette précaution à prendre. Mais là, l'affaire quand même, c'est le comportement d'un homme politique, deux fois candidat à l'élection présidentielle, qui souhaite manifestement devenir président, avec un parti, le comportement en divers lieux, de diverses manière face à diverses personnes ou institutions, et notamment la justice et la police. Et ça, en soi, quel que soit le débat qu'on puisse avoir sur la justice, ça, c'est inacceptable.
En fait, il y a deux questions que soulève Hubert Védrine. Il y a la justice et Jean-Luc Mélenchon. Sur la justice, que la justice soit un sujet dont on puisse discuter, évidemment, ça, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. La question est de savoir quel est l'angle. L'angle qui a été choisi dans la polémique depuis plusieurs jours, est celui de son indépendance. Et en l'occurrence, je pense que c'est un mauvais angle. La question de son fonctionnement, là, c'est quelque chose...
Pourquoi c'est un mauvais angle, la question de son indépendance ?
Mais parce que je disais tout à l'heure que quand on regarde les perquisitions qui ont été effectuées dans les autres formations politiques...
Au Front National et au Modem.
au Front National, au Modem, à La République En Marche, au Parti Socialiste en son temps, chez les Républicains en son temps, et très souvent lorsque chez le parti qui était au pouvoir. Donc ce n'est pas une question d'indépendance par rapport au pouvoir. Donc c'est pour ça, c'est ce en quoi je pense que l'angle de l'indépendance n'est pas le bon. Après, sur le fonctionnement de la justice, y compris sur la violence de la justice, sur ce qu'est, c'est évidemment qu'une perquisition est un acte qui peut être ressenti et qui est violent pour celui qui en est victime. La justice au quotidien est une justice qui souvent est violente. Donc ça peut faire l'objet d'une discussion. En revanche, sur l'autre sujet, est-ce que c'est disproportionné de discuter de ce qui s'est passé autour de Jean-Luc Mélenchon ? Je ne le crois pas. Là, j'ai un point de divergence avec Hubert Védrine. Parce que je pense que nous sommes dans un moment dans lequel la démocratie, au sens de la démocratie libérale, de l'état de droit, des pouvoirs et des contre-pouvoirs, est en France, comme ailleurs, menacée. Beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et que ce qui se joue avec cette affaire-là est aussi cela. Et ce qui se joue, et la divergence avec Jean-Luc Mélenchon, elle peut être là. Dominique Régnier a évoqué un certain nombre de choses, notamment le rapport aux médias, c'est-à-dire à un des contre-pouvoirs, y compris, chacun s'en souvient, le soir et les jours qui ont suivi le premier tour de l'élection présidentielle, la difficulté à reconnaître le résultat d'une élection. L'appel à désobéir au traité, c'est-à-dire à ce qui est dans la hiérarchie des normes entre la Constitution et la loi, tout cela est constitutif d'une conception de la démocratie qui pose problème, en tout cas qui mérite le débat, et donc je pense que ce n'est pas anecdotique.
Sylvie Kaufmann.
Non, je pense que sur la question aussi que soulevait Hubert Védrine du regard qu'on portera sur 20 ou 30 ans sur le bilan de ces affaires, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans une dynamique anticorruption qui est relativement récente dans nos démocraties. On voit bien, par exemple, sur Nicolas Sarkozy, il y a des affaires qui ont été abandonnées, il y en a d'autres qui sont poursuivies. Donc, on peut déjà faire une sorte de bilan à ce propos. Il y a eu des pays en Italie avec l'opération main propre, on est allé très loin. J'ai cité la Roumanie tout à l'heure, même le Brésil, c'est ce qu'on a appelé lavage express, cette opération. Voilà, il y a un balancier. C'est une dynamique politique aussi. Il y a une exigence du peuple, des électeurs, pour parler plus démocratiquement, dirons-nous. Il y a une exigence de l'électorat de faire la lumière sur ces affaires de corruption. Le financement des partis politiques, c'est quelque chose qui préoccupe les gens aujourd'hui. Donc la justice est forcément portée à mettre l'accent là-dessus. Il y a
la France ayant été souvent condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme au motif qu'elle n'était pas une autorité judiciaire suffisamment indépendante. On pourrait dire aussi qu'on en est seulement à l'étape d'envisager de supprimer la Cour de justice de la République, c'est-à-dire cette juridiction d'exception chargée de juger les ministres pour des crimes et délits. Est-ce que la France a un train de retard, tout simplement, qui expliquerait l'ère du soupçon qui revient
après,
de façon récurrente?
Après, il y a cette réforme du parquet sur laquelle que nous a promis Emmanuel Macron. Lui, il dit qu'il veut maintenir la chaîne hiérarchique entre ce qu'il appelle le parquet à la française, ça dit bien ce que ça veut dire, et le garde des Sceaux, mais en introduisant des garanties. Je crois que ça, c'est indispensable, effectivement, qu'il y ait plus de garanties afin qu'on ne puisse plus s'exposer à ces accusations qui, à mon avis, sont excessives de gouvernement des juges.
Hubert Védrine, vous voulez réagir ?
Oui, dans les questions que j'ai posées sur le bilan, en fait, des pouvoirs judiciaires, des institutions, sur 20 ou 30 ans, la Cour européenne des droits de l'homme mériterait d'être examinée aussi. Quelle est sa ligne ? Quels sont ses jugements ? Qu'est-ce qu'elle a décidé ou pas ? On n'est pas obligé de complètement aplati et sans aucune espèce de pensée analytique. Je ne parle même pas critique, mais analytique sur ce genre d'organisme. Ils ne sont pas sur la planète Mars. Ils sont dans un jeu de pouvoir très, très évident dans le système européen, par exemple.
Donc, pensez-vous, soyez précis.
J'ai pas la conclusion. Je dis que je suis étonné, encore une fois, dans une sorte de société de lynchage généralisé, qu'il y ait quelques entités qui échappent à ça. Je ne leur souhaite pas le même sort, d'ailleurs, que celui des pouvoirs politiques, qui sont déchiquetés. Mais je pense que ça serait pas mauvais qu'il y ait une analyse sérieuse.
Mais soyons clairs, vous pensez que la Cour européenne des droits de l'homme est subjective, est une instance subjective?
Oui, je pense qu'elle a une idéologie plutôt dans un sens que dans l'autre. D'ailleurs, Attendez, j'ai deux autres points très rapides. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle s'en cache spécialement. Dans l'affaire de la corruption, il ne faut pas confondre corruption. Je suis évidemment contre la corruption, je suis pour la lutte contre la corruption, je suis content qu'il y ait eu plein de lois depuis une vingtaine d'années qui n'existaient pas avant, naturellement. Il ne faut pas confondre ça avec une sorte d'ambiance générale qui est celle j'ai parlé du lynchage exprès, parce parce que c'est pas...
Mais où est-il le lâchage dire,
dans la tonalité. La tonalité, le ton, les commentaires, dans une espèce de volonté moralisatrice qui me fait penser aux tricoteuses, là, un petit peu à côté de l'échafaud. C'est pas exactement les juges, c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a des professions qui sont exposées systématiquement, plus que d'autres, avec très 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 peu de moyens de se défendre. Quant à la démocratie, je suis pas en désaccord avec la remarque de Gilles, hein, mais je pense que la démocratie représentative à laquelle nous sommes attachés est encore plus menacée par autre chose, qui est une sorte d'exigence, une sorte d'impatience de démocratie immédiate, généralisée, technologiquement possible, qui fait que c'est devenu à peu près impossible de gouverner les démocraties modernes, qui sont fondées sur l'individualisme de masse, la connexion, la transparence, la réaction instantanée. Là, il y a un vrai, vrai, vrai problème. Alors, on peut englober la remarque de Gilles qui n'est pas le contraire de ça. Il y a un vrai problème pour les démocraties, mais il ne faudrait pas se soucier uniquement en termes ultra-classiques de l'aspect justice dont on a parlé avant.
Vous sentez ultra-classique, Gilles Finkelstein, sur
ces sujets? Parfois, on est tous le nouveau monde ou l'ancien monde de quelqu'un, ce qui est réjouissant.
Les deux en même temps.
Dans la vie. Sur le train, a-t-on un train de retard? Ça, c'est la France a-t-elle un train de retard par rapport aux autres démocraties? Sur l'indépendance de la justice, il y a depuis maintenant de nombreuses années l'idée d'aller plus loin, d'inscrire dans la Constitution l'indépendance de la justice. Sur une affaire comme celle-là, il n'y a pas de possibilité d'intervenir dans des affaires individuelles. La loi, déjà, l'interdit. Donc, il y a des instructions qui peuvent être données, des instructions de politique pénale par le garde des Sceaux, mais il n'y a pas d'intervention dans les affaires individuelles. Quant au financement de la vie politique, la France a été en retard pendant, mais comme beaucoup d'autres pays qui n'avaient pas fait grand-chose, sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales, on a un dispositif qui n'est pas parfait, qui peut être amélioré, mais qui est bien meilleur que dans beaucoup d'autres pays. Et quant à la transparence, notamment la transparence des patrimoines, on a fait dans le quinquennat précédent, après l'affaire Cahuzac, là aussi, il y a eu des progrès. Donc, il y a peut-être encore des retards, mais beaucoup a été comblé.
Et sur la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'avançait Hubert Védrine, à savoir qu'il y avait une ligne idéologique à la Cour européenne des droits de l'homme qui mériterait d'être contester,
oui,
ou du moins regarder.
Une ligne idéologique, c'est elle défend les droits de l'homme.
Ce qui en soi est dérangeant.
Non, mais je vois bien là ce que Gilles dit. Mais je pense que c'est pas. Faut pas parler de la Cour européenne des droits de l'homme comme les catholiques d'autrefois parlaient du pape. On peut même pas discuter. C'est infaillibilité absolue. Non, on a le droit de regarder comment ils sont composés, qui les nomme, quels sont les jugements. On a le droit.
Absolument, de la même manière qu'on peut le faire pour le Conseil constitutionnel, oui, et pour sûr, l'ensemble. Oui. Absolument, ça doit faire partie du débat public.
La Cour de Karlsruhe en Allemagne, par exemple, qui est une sorte de Conseil constitutionnel, a également une ligne. Ces organismes ont une ligne, ils existent, il y a des gens dedans, des individus, des êtres humains. Ils ont des conceptions idéologiques, politiques, extrêmement honorables, mais on a le droit de regarder le bilan.
Est-ce que ça n'entretient pas l'air du soupçon, précisément, Sylvie Kaufmann, de commencer à considérer que toutes les institutions de la République ou internationales ont toutes des lignes idéologiques ?
À partir du moment où on accepte la juridiction d'une instance internationale, on peut aussi la critiquer si on veut et dire qu'elle a une ligne idéologique. Ce qui est important, c'est d'accepter
l'évaluer,
la juridiction.
Voilà. Pas forcément la critiquer, mais l'évaluer.
Moi, je suis plus gênée par cette accusation de lynchage dont parle Hubert Védrine. On est parti d'une information qui est l'affaire Mélenchon, le comportement de Jean-Luc Mélenchon. Dominique Reynier a tout à fait bien rappelé son comportement vis-à-vis de la presse et des journalistes notamment, et mes collègues sont régulièrement, on l'a encore vu cette semaine avec cette journaliste de France 3 qui était malmenée parce qu'elle avait le malheur d'avoir un accent méridional. Le lynchage, il est là aussi.
Oui, il est dans tous les sens. Voilà. Réseaux sociaux.
Est-ce que c'est cela que vous avez vu à l'œuvre aussi, Dominique Reynier, ou plus largement, est-ce que dans l'utilisation en effet de la vidéo de Facebook cette semaine et d'une mise en cause généralisée, on n'a pas vu entrer très clairement des pratiques qui sont celles, par exemple, qu'on peut voir aussi en ce moment dans l'Italie de Matteo Salvini à l'œuvre chez nous en France ?
Il y a clairement une question qui se pose, et pour la première fois, de la compatibilité entre le gouvernement démocratique d'une société et l'état de ces médias. Jusqu'ici, historiquement, on a fait une relation positive entre le développement d'un système médiatique et le développement d'un régime démocratique. Et la représentativité, elle était au fond double, politique et médiatique. Là, aujourd'hui, avec la manière dont les réseaux sociaux peuvent interférer, il y a une question qui se pose historiquement pour la première fois dans l'histoire démocratique, qui est une possible dissociation, voire une possible incompatibilité. Elle est précipitée, cette tension, par les acteurs politiques eux-mêmes, hein, les scènes que nous avons vues. Les crises récentes, les deux plus récentes qui me viennent à l'esprit, l'affaire Benalla, entre guillemets, l'affaire Mélenchon, entre guillemets, sont des scènes qui n'ont pas, n'ont jamais existé.
Toutes les deux, quand même, ont un point commun. Elles posent la question de l'exemplarité
oui,
de l'État.
Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément des scènes qu'on n'a jamais vues dans l'histoire. On serait étonné qu'on nous apprenne ça. Ce sont des scènes qui ont été filmées et qui existent parce qu'elles ont été rapportées à travers des vidéos qui ont circulé sur les réseaux.
Donc, comme Jean-Marie Le Pen en 1997, oui, quand il avait bousculé cette élue socialiste
absolument,
à Mantes-la-Jolie.
Absolument, en l'insultant de manière très violente. Vous avez tout à fait raison. Et c'est donc c'est un monde où désormais, voilà, il y a une espèce de saturation qui vient. Et dans un contexte qui m'a beaucoup frappé, on sent bien la montée de la violence dans notre société. C'est une des crises profondes qui travaille la démocratie. La demande d'autoritarisme est très présente aussi. Et cette image, moi, que je garderai en mémoire, de Jean-Luc Mélenchon face à ce policier impeccable, hein, admirable, franchement, parce que cette scène était très difficile pour lui, cette espèce de face-à-face quasiment physiquement, le contact était établi, pour moi, ça a été pour le coup, et politiquement et médiatiquement, une bonne représentation de ce que la société française est en train de devenir. Nous ne sommes pas loin de l'affrontement, nous ne sommes pas loin du passage à l'acte, la violence physique, elle est à fleur de peau, on va y aller, et c'était ça aussi, je pense, qui nous a frappé dans cette scène impressionnante.
Gilles Finkelstein, pour conclure sur cette première partie.
Oui, il y a eu, je crois, une confirmation et deux inédits dans cette affaire. La confirmation, c'est que la politique est un monde de paranoïa dans lequel chacun essaye de regarder où sont ses ennemis et oublie souvent que son premier ennemi est soi-même. C'est vrai pour Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres. Les deux inédits, il y en a un sur la forme, c'est l'irruption du mobile, des réseaux sociaux, de l'homme média dans le fonctionnement de la justice. Je crois que c'est la première fois qu'une perquisition est filmée comme ça en direct et ça soulève plein de questions sur est-ce que c'est possible de le faire, le droit à l'image des policiers, etc. Et puis sur les réactions que cela a engendrées et les clivages qui se sont dessinés, et je crois qu'ils sont très nouveaux parce qu'on a vu de manière sans doute surprenante non seulement le Front National, Debout la France, mais aussi les Républicains, Génération et évidemment la France Insoumise qui d'une certaine manière apportait un soutien à Jean-Luc Mélenchon et d'un autre côté la
avec
République en Marche
aussi,
avec des voix dissonantes à l'intérieur de chaque parti et d'un autre côté le Parti Socialiste, le Modem et la République en Marche qui étaient dans une position critique. C'est un clivage, une ligne de clivage qui est inhabituelle dans notre démocratie.
Allez, fin de cette première partie, on va maintenant s'intéresser à l'assassinat de ce journaliste au consulat saoudien d'Istanbul, virant au sinistre feuilleton géopolitique sur le thème « Combien de victimes dans les placards de MBS ?»
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Chaque jour son lot de révélations dans cette sordide affaire de disparition se déroulant le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le média turc, Yeni Safak, ne nous épargnait cette semaine aucun détail qu'il disait détenir des services de renseignement d'Erdogan. Dès son entrée au consulat saoudien, Khashoggi aurait été torturé pendant un interrogatoire au cours duquel il aurait eu plusieurs doigts coupés. Il aurait été ensuite décapité, son corps démembré par des agents saoudiens à l'intérieur du consulat, lesquels écoutaient de la musique pendant l'opération sur les conseils du médecin légiste venu spécialement de Riyad pour l'occasion. La musique permettant, je cite, « d'apaiser la tension lorsque l'on effectue un tel travail », l'entendait-on dire sur un enregistrement que se seraient procuré les Turcs. On apprenait également que Khashoggi n'était pas un journaliste lambda, mais un homme qui aurait travaillé au cœur même du système saoudien, ancien conseiller du prince Turki Al-Faisal, ancien chef des services secrets saoudiens et cousin de MBS. Lequel Mohamed Ben Salman, choisi par son père le roi pour être son dauphin, au mépris de la tradition qui voulait que jusque-là le trône se transmette de frère en frère, il commençait à avoir beaucoup d'ennemis. D'abord, tous ceux, princes, cousins, VIP du royaume, enfermés de longues semaines au Ritz-Carlton de Riyad, officiellement au nom de la lutte contre la corruption. Autres ennemis du prince, les religieux conservateurs, opposés à ces réformes libérales, permis de conduire pour les femmes, réouverture des salles de concert. Sans oublier le long cortège de militants des droits de l'homme, enfermés à tour de bras ces derniers mois. Et puis, bien sûr, tous ces morts de la guerre au Yémen, déclenchée par MBS lorsqu'il était ministre de la Défense. Cela commençait à faire beaucoup de cadavres dans les placards saoudiens.
Des indices de plus en plus embarrassants pour MBS, le leader qui prétend réformer le pays. Son grand allié Donald Trump vient d'ailleurs à son secours.
Il me semble que cela pourrait être le fait d'assassins voyous, qui sait.
Un scénario qui dédouanerait le prince héritier. MBS pourrait d'ailleurs finalement reconnaître la mort du journaliste. Un interrogatoire trop musclé aurait mal tourné, mais il dira que lui n'était pas au courant.
Sordide et insensé polar géopolitique, Hubert Védrine, avec deux grandes questions qui se posent. Comment le prince saoudien aurait-il pu oser un acte aussi risqué? Et comment expliquer que les médias turcs aient autant d'informations?
Les médias turcs, d'après ce que je sais, c'est simple, c'est que le consulat est truffé de micros, la police turque les a, et la police turque a donné les... Parce que dans le jeu turc, à certains moments, c'est important. Enfin, ils sont parfois d'accord, parfois en rivalité avec l'Arabie, donc il n'y a pas d'interrogation sur les sources. On est devant un événement, une crise gravissime, notamment dans les relations entre l'Arabie et les États-Unis, qui sont fondamentales depuis la rencontre historique entre le Roosevelt et le roi d'Arabie sur le fameux bateau, le Quincy. Et c'est la crise la plus aiguë et la plus grave depuis le 11 septembre. Et après le 11 septembre, il y a eu tout un mouvement aux États-Unis, aussi bien chez les démocrates que les républicains, pour se distancier de l'Arabie, pour les sanctionner même. Il y a même des lois qui ont été adoptées pour permettre aux familles des victimes du 11 septembre de poursuivre l'Arabie. Mais il y avait en face de ça des intérêts gigantesques, pas uniquement pétroliers. Enfin, les ventes d'armes, il y a tout un tam-tam sur les ventes d'armes européennes, mais c'est totalement peanuts par rapport aux échanges de marchés d'armement entre l'Arabie et les États-Unis, qui sont fondamentaux. Et à ça s'était ajouté dans la dernière période une alliance entre Trump, l'Arabie en tout cas, Mohamed Ben Salman et le MBZ, celui qui dirige les Émirats Arabes Unis, et Netanyahou pour abattre le régime iranien. Puisque la prise en otage de l'ensemble de l'économie mondiale par les sanctions unilatérales américaines, et qu'ils font abusivement, enfin on a toléré ça depuis longtemps, c'est pour créer une guerre civile en Iran, renverser le régime, ils pensent que ça sera mieux pour eux après, etc. Voilà cette politique. Est-ce qu'elle est rendue impossible par l'événement qui vient de se produire? Tout est ouvert aujourd'hui. Je ne crois plus que ce soit possible que les choses continuent comme avant. D'ailleurs, Trump lui-même a déjà évolué par rapport à la citation
à qu'on entendait là,
juste avant.
Il peut pas tenir.
Il
admet la mort du journaliste.
Il y a même chez les républicains, il y a un énorme parti anti-saoudien quand même. Et puis le journaliste entre guillemets, parce que c'était un dirigeant, même djihadiste à un moment donné, bon, etc. En tout cas, il était chroniqueur au Washington. Enfin, il était en tout cas ami de Bin Laden enfant, on va dire. Bon.
Il l'a interviewé, il a eu accès à
lui. Puisque ça, il était, puis il y a un jeu compliqué dans la relation avec les services saoudiens pendant très longtemps, sous le patronage astucieux du prince turc. Enfin, tout ça est compliqué. Mais il était devenu maintenant un chroniqueur au Washington Post. Donc il y a toute une partie du système américain pour qui c'est totalement intolérable. Donc l'hypothèse que dans 15 jours on dit c'est un accident parce que c'est des exécutants qui ont une sorte de super affaire Ben Barka, vous voyez, donc on s'en fiche, on va continuer et puis on va limoger un sous-chef des services, à mon avis c'est pas tenable. Donc il reste réaction moyennement dure des partenaires de l'Arabie ou carrément une sorte de rupture, sauf si, mais ça j'en sais rien, aucun de nous ne le sait d'ailleurs, sauf si le système saoudien se sent en danger compte tenu du dérapage par MBS, et que le vieux roi a encore la capacité, ce que je ne sais pas, de changer de prince héritier.
Alors,
le système survit comme ça.
Sylvie Kaufmann,
tout est ouvert aujourd'hui.
Expliquez-nous, puisque vous avez travaillé sur ce dossier-là cette semaine pour le journal Le Monde, le clan des Saouds est réuni en conclave. Plusieurs types de décisions pourraient être prises, et en effet, celle de nommer l'un des frères de MBS, qui était jusque-là aux États-Unis ambassadeur, et qui d'ailleurs serait en train de rentrer, d'être nommé avec lui, à ses côtés finalement. Est-ce que c'est l'une des voies privilégiées, ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre scénario dans les jours ou les semaines à venir?
Alors j'aimerais beaucoup être une petite souris dans ces délibérations.
Et non,
des
sans clans. Les scénarios.
Et je doute que je puisse y être étant une femme. Déjà, ça m'exclut de a priori. non, je pense la question est évidemment ouverte et ce qu'on dit beaucoup, c'est que MBS a tellement tout verrouillé. D'abord, le roi est vieux et enfin il a 82 ans, mais il est en mauvaise santé. Est-ce qu'il a encore le pouvoir de prendre ou d'imposer une décision de modifier l'ordre de succession à nouveau au trône et donc de désavouer celui qu'il a nommé comme prince héritier MBS. Est-ce que les structures, ces clans sont vraiment déjà sont encore en mesure de changer tout ça? Les gens qui connaissent bien le royaume disent que le prince héritier Mohammed Ben Sultan a vraiment Ben Salman a vraiment tout verrouillé, toutes ses structures, tous les pouvoirs. Les gens sont même il y a beaucoup de gens de sa famille qu'il a mis en résidence surveillée. Donc je ne sais vraiment pas ce qui peut se passer.
Est-ce
à ce niveau-là.
Est-ce qu'on peut d'ailleurs douter un seul instant qu'il soit le commanditaire de cet assassinat?
A priori, non. Tout le monde dit que c'est tellement vertical maintenant que c'est de la même manière qu'on doute que Poutine n'ait pas été au courant de l'affaire Skripal, par exemple. Voilà, ce genre de pouvoir est quand même très très vertical et c'est difficile d'imaginer que ça puisse se savoir sans...
Passion, oui. On peut dire qu'il faut le neutraliser, il faut le ramener.
Oui, après, il n'a peut-être pas dicté les détails. Mais enfin, non, je pense que l'élément vraiment nouveau dans cette affaire, c'est la relation, c'est ce qui se passe dans la relation américano-saoudienne. Et ça, c'est vraiment intéressant. Hubert Védrine citait tout à l'heure cette rencontre à bord du navire de guerre en 1945 entre Roosevelt et le fondateur du royaume, Ibn al-Saoud. Elle est fondamentale. C'est ça qui, depuis 1945, régit les rapports entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, c'est-à-dire le pacte qui a été conclu sur ce navire. C'était que les États-Unis auraient un accès privilégié aux ressources pétrolières de l'Arabie saoudite et en échange assureraient leur protection militaire contre les possibles ennemis extérieurs. Et depuis, c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a eu que deux exceptions. En 1962, quand Kennedy a obtenu du roi Faisal, où je crois qu'il était prince héritier à l'époque, qu'il mette fin à l'esclavage. Et plus récemment, en 2015, quand Obama a convaincu le roi Salman de suspendre les 1000 coups de fouet à ce blogueur Ralph Badawi, qui est toujours en prison. Ce sont les seules exceptions.
Il a toujours droit aux coups de fouet chaque vendredi.
Et maintenant... Et Trump, quand il a la première visite qu'il a faite à l'étranger, quand il est arrivé au pouvoir, c'était en Arabie Saoudite. Il ne faut pas l'oublier, avant de venir en Europe, avant d'aller ailleurs. Donc,
et d'ailleurs, Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, a été dépêché à Riyad.
Voilà. Alors là, on voit qu'il a essayé de sauver, de préserver cette relation privilégiée. Il a avancé, vous l'avez dit tout à l'heure, cette hypothèse des assassins ou des tueurs incontrôlés, en espérant que Mike Pompeo arriverait à convaincre le prince héritier de trouver d'adopter cette porte de sortie. Ça n'a pas marché. Le prince héritier continue de nier et de dire qu'il n'y est pour rien. Donc maintenant, la pression du Congrès, il y a des élus au Congrès qui réclament le départ de ce prince, qui disent qu'il n'est pas le pouvoir de le faire, mais qui disent on ne veut plus avoir de relations avec ce pays, je ne mettrai plus les pieds dans ce pays, a dit le sénateur Lindsey Graham, qui est assez influent. Les milieux d'affaires qui se retirent de cette conférence d'investisseurs qui a lieu cette semaine, qui aura lieu cette semaine.
Le fameux Davos du désert.
Le fameux Davos du désert, qui n'a rien à voir avec le Davos de la montagne, mais enfin qui attire beaucoup de monde en général. Et donc on voit tous ces décideurs qui s'en retirent les uns après les autres, y compris le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Donc on voit que là, la pression monte sur Donald Trump. Et finalement, on voit aussi que l'Arabie saoudite n'a plus le même pouvoir qu'elle avait. Le pétrole, elle n'est
plus... Il n'y a plus le chantage pétrolier. Parce que pourtant, on les a entendus brandir cette semaine la menace d'un baril de pétrole qui passerait de 100 à 200 dollars, donc ça existe toujours.
Il se tirerait dans le pied en augmentant le prix du pétrole. Ça desservirait les États-Unis, mais d'un autre côté, ça servirait l'Iran qui pourrait à ce moment-là vendre son pétrole à prix cassé. Et donc, ça serait contre-productif pour les sanctions que veulent mettre en œuvre les États-Unis.
Jean Finkelstein, en tout cas, ce qu'on a bien vu aussi cette semaine, c'est que MBS, c'est-à-dire celui qui avait tant séduit les dirigeants du monde entier, notamment du monde occidental, hein, en présentant le visage peut-être d'une nouvelle Arabie Saoudite, plus réformatrice, plus libérale, aujourd'hui, cette image-là, elle est très écornée. Et on sentait bien aussi qu'il y avait un désir de l'Occident d'y croire, parce qu'on le présentait aussi comme celui qui saurait restreindre ou reprendre le pouvoir des conservateurs religieux, du wahhabisme, dont on dit qu'il finance le terrorisme djihadiste international. C'est la fin de cet espoir-là?
Vous usez d'un bel euphémisme, l'image est écornée. Il y a l'histoire longue.
À la saoudienne.
L'histoire longue dans laquelle s'inscrivent à l'instant Sylvie Kaufmann et Hubert Védrine. Et on est, je crois que c'est ça qui est important, à un moment charnière. Parce que la désignation de MBS comme héritier fait qu'il y avait à la fois une transition économique et une transition politique. Et il y avait, depuis le début, un doute, une interrogation sur l'ambivalence de MBS. Le titre du livre de Christine Krent, le mystère
le
MBS.
Mystère.
Et il y avait des éléments dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments qui témoignaient d'une véritable volonté de modernisation. Vous en avez cité quelques-uns, le permis de conduire pour les femmes, l'ouverture des salles de concert et de cinéma, y compris le plan Vision 2030, 2030, qui était une mutation considérable de tout le système
sortir
économique.
Sortir l'économie saoudienne du tout pétrole.
Du tout pétrole. Donc d'un côté, il y avait ça. Et il y avait des actes qui allaient dans ce sens-là. Et d'un autre côté, en même temps, vous aviez une répression féroce sur les opposants, et puis des aventures diplomatiques avec le Qatar, des aventures militaires au Yémen. Et donc il y avait ces deux éléments. D'ailleurs, la lutte contre la corruption dont on parlait précédemment était une illustration de cette ambivalence, parce que c'était à la fois un signe de modernisation et un prétexte à l'oppression, comme dans beaucoup de pays, vous avez cité la Roumanie, mais c'est vrai aussi en Chine. Donc, il y avait cette ambivalence, il y avait ce mystère, il est levé par cette histoire, et on est passé, il n'y a plus de doute. Et de ce point de vue-là, on pense, même si les choses n'ont rien à voir, à la formule terrible, la formule cynique qu'avait utilisée, on ne sait plus si c'est Talleyrand ou si c'est Fouché, après l'assassinat du duc d'Enghien, pire qu'un crime, une faute. Et il n'a pas senti, peut-être parce qu'il a fait, c'est un des seuls d'ailleurs des frères à ne pas avoir fait ses études à l'étranger, il n'a pas senti ce qu'allaient être les réactions dans les pays occidentaux. Il a cru que, de la même manière que les dizaines de milliers de morts civils au Yémen allaient, étaient passés, que cet assassinat pouvait passer, eh bien, il n'est pas passé. Et je crois, pour revenir au point de départ, que maintenant, un fusible est indispensable et qu'il y aura un fusible. La question est de savoir qui ce sera.
Et est-ce que ça suffira ?
Si jamais, en effet, ce fusible s'appelait MBS et que, non pas y envisager qu'il quitte le pouvoir, mais en tout cas qu'on mette à ses côtés un vice-prince, et notamment, pourquoi pas, son frère Khaled Ben Salman, est-ce que cela modifierait, Dominique Régnier, cette géopolitique très spécifique qu'a mise en place MBS ? Vous avez parlé des Qataris, qu'il a soumis à un blocus, des Palestiniens, qu'il déçoit aussi par son tropisme israélien, les Iraniens, bien sûr, les Turcs. Cette géopolitique spécifique de MBS, est-ce qu'elle serait amené à évoluer si ça n'était plus MBS, l'homme fort du royaume?
Bon, évidemment, je ne suis pas vraiment en mesure de savoir cela. Mais ce qui me frappe, c'est la centralité de l'Arabie saoudite pour de nombreux pays et dans le monde d'aujourd'hui sur des sujets absolument stratégiques qui peut laisser penser que cette affaire, quoique épouvantable et dramatique, est amenée à ne pas durer, compte tenu de cette centralité. Je voudrais ajouter aussi le fait que Mohamed Ben Salman est un prince qui a peut-être le soutien d'une large partie de la société saoudienne, en particulier...
En tout cas la jeunesse.
En tout cas la jeunesse, qui représente, comme vous le savez, 70% de ce pays, et qui voit en lui une promesse qui jamais n'avait été jusqu'ici esquissée. Et ça sera peut-être difficile pour cela de revenir sur ce point. Il y a chez Machiavel des considérations sur ce type de situation. Il est peut-être faible à l'extérieur, mais il est très fort chez lui, si ce soutien peut être confirmé. Et c'est aussi quelque chose à quoi il faut réfléchir avant d'imaginer le remplacer. Un autre aspect qui me paraît important dans cette affaire, c'est la position des Européens. Je voudrais, si vous permettez, juste faire cette remarque. Les effets du dehors au dedans, au fond. Les Européens sont inexistants sur le plan géopolitique, mais ils ont beaucoup d'intérêt dans tout cela. Et ce qui frappe aujourd'hui, je parle de l'Union européenne, c'est la discrétion de l'Union européenne. Une très grande gêne dans cette situation-là.
Il y a eu une condamnation au nom de l'Union européenne, voilà, qui, en effet, n'a laissé aucune trace.
Qu'on ne peut pas ne pas faire, hein, mais une grande gêne. Et il me semble que c'est difficile pour l'Union européenne faire preuve d'une aussi grande discrétion au moment où elle a, au plan interne, une discussion aussi vive sur ce que c'est qu'un régime avec lequel on peut discuter ou avec lequel on ne peut pas discuter. Et je fais la relation entre la manière dont les Européens se disputent aujourd'hui sur la Hongrie, la Pologne, l'Italie. C'est une incohérence, ça. Il faut faire attention.
Il n'est pas question de faire entrer l'Arabie Saoudite dans l'Union européenne.
Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais la force de principe auquel on est attaché doit se manifester avec une certaine cohérence, ou bien cela fragilise l'usage de cette argumentation, y compris au plan interne, je veux dire ici, au plan de l'Union européenne. Et comme il y a une forme, je dirais, d'ambiguïté, ce serait peut-être utile pour l'Union européenne de clarifier sa relation avec les principes qu'elle défend.
Je repose ma question à Hubert Vienne, puis je vous donne la parole juste après, Sylvie Kaufmann, sur cette géopolitique spécifique mise en place par MBS et ses alliances nouvelles. Je citais notamment le tropisme israélien du prince. Est-ce que cette nouvelle géopolitique saoudienne, elle serait remise en cause par une destitution symbolique du prince MBS?
Oui, ce n'est pas une géopolitique, c'est une politique étrangère particulière du MBS, mais dans l'affaire Iran, c'est Trump le moteur. C'est Trump qui veut abattre le régime parce que les Américains ne pardonneront jamais au régime iranien. La chute du Shah, la prise d'otage de l'ambassade, etc. Donc il y a l'alliance avec MBS soutenue par MBZ et d'autre part Netanyahou. Bon, ça serait évidemment modifié puisque déjà le roi qui est encore là malgré tout a un petit peu freiné. Moi je voudrais dire qu'on a parlé de l'image. MBS, d'après ce que l'on sait, a dépensé au moins des dizaines de millions de dollars en demandant à des sociétés américaines qui ont travaillé l'image et qui ont répandu dans le monde entier l'image du prince modernisateur.
Et française parfois.
Et c'est peut-être aussi, oui, tout est possible. Et je pense que c'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs de donner aux femmes le permis de conduire, des choses de ce genre. Tout ça, c'est volatilisé. Donc c'est comme dans les crashs boursiers, vous voyez. En une seconde, tout l'argent dépensé par MBS depuis le début, terminé. Parce qu'il y a une espèce d'image effrayante qui détruit tout ça. Moi, je résumerai en disant que si le système saoudien, alors je ne parle pas du peuple saoudien, où en effet il y a des femmes, des jeunes qui veulent un pays plus moderne, mais le système saoudien, le système des princes qui sont très nombreux, et pas tous ceux qui touchent au pouvoir, mais quand même l'ensemble de ceux qui ont été marginalisés, écartés, sinon plus la force collectivement, parce que MBS est trop fort, de marginaliser MBS, avec le consentement du roi qui pensait qu'il faut faire ça pour sauver la place du royaume dans le monde de demain. Là, on va assister à une dégradation sans précédent parce que les données de base du Quincy ne sont plus là. Les États-Unis n'ont plus besoin à ce point de l'énergie de l'Arabie, notamment depuis la révolution du pétrole de schiste. Il reste un gigantesque marché de vente d'armes américaines et puis le plan dont on a parlé de renverser les régimes iraniens ensemble. Mais malgré ça, c'est tellement déstabilisateur qu'à mon avis, les relations ne peuvent pas en sortir telles qu'elles sont. Ça peut aller très loin. Sauf si le régime arrive à se sauver par initiative.
Ce qu'on verra sans doute ces prochains jours, ce dont on a peu parlé, Sylvie Kaufmann, et j'aimerais bien qu'on termine par cela, c'est ce clan religieux conservateur, évidemment infiniment important en Arabie Saoudite, dont on sait qu'il voyait d'un mauvais œil, et c'est une litote, là encore, tout ce qui était en train d'être mis en place en termes de libéralisation de la société par le prince MBS. Dans cette nouvelle configuration, qu'est-ce que ça veut dire aussi sur un retour au pouvoir de ce clan religieux-là, dans l'équilibre saoudien ?
Oui, alors avant de vous répondre, juste je veux revenir sur ce qu'a dit Dominique sur les Européens. C'est vrai qu'ils ne sont pas en première ligne dans cette affaire, mais et que leur poids géopolitique est faible comparé à celui des États-Unis, en l'occurrence. Mais il y a quand même eu une réaction assez nouvelle, je dirais, des trois grands pays européens, des trois grandes capitales, Berlin, Paris et Londres, qui ensemble ont fait un communiqué commun pour condamner ce qui s'était passé et demander des explications et une enquête bien avant que Trump vraiment réagisse. Donc il y a, alors que ces trois pays sont en général pardon, en compétition assez féroce sur, pour remporter des contrats d'armement ou d'autres choses auprès de l'Arabie Saoudite. Donc il y a quand même eu une démarche et puis leur gouvernement ont décidé de ne pas participer finalement à ce fameux Davos du désert. Sur ce qui va se passer à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, il y a eu, bien sûr, cette libéralisation, entre guillemets, les femmes ont maintenant le permis de conduire. Mais en même temps qu'on accordait le permis de conduire aux femmes, on mettait toutes les dirigeantes de ce mouvement qui s'était battu pour obtenir ce droit en prison. Donc je crois que le clan religieux, il n'était pas complètement desservi non plus. Par ailleurs, les femmes, le système du gardien des femmes n'a pas été annulé. Donc on n'était pas dans une révolution de société ou de mœurs tellement importante.
Non, mais ce que montre bien le livre de Christine O'Crane, c'est que cette tension qui existait entre le régime du prince et cette génération-là ou ce clan-là.
Oui, oui. Ça, on verra, mais ça ne va pas être du jour au lendemain, je pense.
Un mot très bref. Si le système saoudien, pour se sauver, réussissait à marginaliser, je ne sais pas comment, MBS en faisant nommer un autre prince héritier, ça ne veut pas dire retour des religieux. Parce que l'ensemble du système saoudien n'a pas forcément non plus de redonner aux religieux, aux wahhabites, le pouvoir qu'ils ont eu avant. Ça, je crois que c'est autre chose. Ce serait un autre morceau du système politico-saoudien.
Et puis la société continue à grignoter. Vous parliez de la jeunesse, c'est vrai. Les femmes aussi grignotaient petit à petit leur liberté.
Oui, travaillent de plus en plus, notamment, étant plus de chefs d'entreprise. Ça. Femme. Gilles Finkelstein.
Oui, deux remarques. D'abord, sur l'Europe, sur ce que disait Dominique Régnier tout à l'heure, je ne pense pas qu'il soit justifié de pointer l'incohérence, parce que je trouve qu'on mélange deux choses qui sont différentes. Que les pays membres de l'Union européenne se fixent entre eux un certain nombre de règles qui sont constitutifs de notre modèle social, politique, c'est une chose. Que pour dialoguer, pour commercer, pour avoir des relations diplomatiques avec d'autres pays, on le fait avec les pays tels qu'ils sont, après en exerçant la pression qu'on veut, c'est autre chose et je pense qu'on ne peut pas faire le pont entre ce que l'on dit sur la Hongrie et ce que l'on dit ou ce que l'on ne dit pas, et en l'occurrence on l'a dit sur l'Arabie Saoudite. Deuxième question sur l'Arabie Saoudite et son avenir, que le fusible soit MBS ou qu'on en trouve, un autre. L'orientation géopolitique, elle est guidée, MBS ou pas MBS, par une obsession qui est l'Iran. C'est ça qui guide toute la politique, à la fois de qui sont ses amis, sur le principe que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et c'est comme ça que le rapprochement israélo-arabe et saoudien est évidemment très fort, et que, y compris avec des pays sur lesquels les relations sont traditionnellement compliquées, comme la Turquie ou comme l'Égypte, il peut y avoir des convergences. Et en revanche, le Yémen, le Qatar soupçonné au prétexte de liens avec l'Iran, le Liban, c'est ça qui guide la politique de l'Arabie Saoudite. Après, ça se fera avec une intensité peut-être différente, une impétuosité plus ou moins grande selon que ce soit MBS ou pas. Mais je crois que cette orientation-là, elle se poursuit.
Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Juste un seul conseil de lecture puisque nous sommes un peu en retard, Hubert Védrine.
Eh bien, puisqu'elle n'est pas là et que nous n'avons pas de biographie de Mélenchon sous la main à recommander, il y en a certainement.
Il y en a, en effet.
Je pense qu'on peut recommander l'ouvrage de Christine O'Krent, Le prince mystère de l'Arabie, Mohamed Ben Salman, dont on a beaucoup parlé, MBS, Les mirages d'un pouvoir absolu.
Merci beaucoup Hubert Védrine, Sylvie Kaufmann, Dominique Régnier et Gilles Finkelstein d'avoir été cette semaine nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission. À Luc Jeanrenaud qui l'a réalisé. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Tout de suite, Les bonnes choses de Caroline Brouet vont nous remonter le moral, j'espère. Caroline qui tente aujourd'hui de percer le mystère du goût en compagnie de la chef Adeline Grattard au fourneau du Yamcha à Paris et en compagnie du biophysicien Christophe Lavelle. Et puis ensuite, ce sera Signe des temps de Marc Weisman et avec lui ce sera La fin du monde en compagnie du philosophe Pierre-Henri Castel qui publie Le mal qui vient, essai hâtif sur la fin des temps. En attendant, c'est la fin de l'Esprit public, mais je vous donne rendez-vous bien sûr dimanche prochain à 11h et on se quitte comme toujours avec l'apaisante musique d'Ibrahim Malouf. À la semaine prochaine.